Saint-Félicien. D'habitude, les gens dans le lac Saint-Jean connaissent plus mon petit frère Jean-Philippe que moi-même. Je me promène pas autant. Je suis un peu plus sédentaire que mon petit frère Jean-Philippe. Jean-Philippe a été pasteur pendant des années ici au lac Saint-Jean. Moi, je suis à Trois-Rivières. Ça fait 25 ans que je suis pasteur à Trois-Rivières, église sœur de la vôtre. Et j'ai l'occasion de voir les Mathieu annuellement, presque aux 2 ans, dans les pastorales, les congrès. Et on garde toujours des nouvelles de la région, mais c'est particulièrement aussi un privilège pour moi quand je me retrouve dans une église que mon grand-père a implantée. J'ai encore les souvenirs que quand papa était pasteur à Robertval, je me rappelle le bâtiment qui avait brûlé, des petits gars, puis de voir les murs calcinés. Quand le bâtiment était ici, a été acheté. Puis quand je montais chez Chouguemont, on passait souvent devant le bâtiment de l'église. Quand les Derry étaient achetés une maison pas loin d'ici. C'est des souvenirs qui marquent l'esprit. Et donc, c'est vraiment avec un sentiment de privilège que je suis avec vous ce matin. C'est une grande joie de pouvoir en plus avoir la grâce de Dieu d'ouvrir les Écritures avec vous. Moi, je passe l'été au Camp Patmos avec mon épouse. Une bonne partie de l'été, je suis en vacances. Puis, je travaille dans une équipe pastorale. Alors, quand je suis parti, ils sont bien contents. Ils peuvent plus prêcher. Puis, les gens ne le ressentent même pas. Il y a une bonne équipe pastorale à Trois-Rivières. Fait que je peux être libre de partir pendant l'été, d'être au Camp Patmos avec ma femme. Ma femme sert au Camp Patmos pour assister. Peggy Lael s'occupe de tous les bénévoles, mineurs et adultes. Alors, moi, je suis son assistant. Je fais les jobs de bras. Je fais les études bibliques qu'elle me demande de faire ici et là. Puis, je peux profiter de la plage toute l'après-midi. C'est génial. Alors, pour moi, là, les vacances, ça veut dire aussi être sur la plage, prendre du soleil, nager. Et donc, c'est un grand privilège. Les gens nous connaissent souvent, notre famille, à cause des enfants. On a plusieurs enfants. On a 11 enfants, plusieurs qui sont adoptés. Maintenant, il n'y en a plus beaucoup qui sont à la maison. La plupart sont adultes. Ils sont partis de la maison. J'en ai marié une justement au mois de mai, qui vit à Trois-Rivières avec son mari, et on est très heureux de ça. Puis il y en a quelques-uns qui vont venir nous rejoindre, tout comme mon père. Dans 3 semaines, on a un camp où on se retrouve les Lapierre, parce que les Lapierre, nous autres, on vient de Saint-Prime originalement. Fait que j'ai une vingtaine de mon oncle et de ma tante là, dans le bout de Saint-Prime, et que j'ai pas souvent l'occasion d'aller voir, mais qu'on voit une fois par année généralement au camp Patmos. Fait que c'est ça pour moi-même. Mais juste de vous voir, honnêtement, là, puis d'être ici ce matin, ça me fait grand plaisir. Il y a des vieux de la vieille, que j'ai été au Camp Patmos avec les enfants, de retrouver mon gardien, cuisinière. C'est juste d'être ici, c'est bénissant d'être avec vous. Je veux que vous le sachiez, là, c'est un plaisir. Je vous invite à prendre la parole de Dieu puis de l'ouvrir dans Genèse chapitre 3. Cette semaine, j'enseignais toute la semaine dernière, j'enseigne maintenant, ça fait des années, depuis 98, j'enseigne une semaine au Camp Patmos comme conférence. À l'époque, c'était auprès de la jeunesse pendant des années. Ça fait plusieurs années maintenant que Wally et Frank m'avaient demandé de prêcher. Là, je gossais après pendant longtemps parce qu'ils décrochent facilement, là. Ils glissent. Mais bon, on va faire avec. De prêcher au camp de famille. Et depuis cette année, je remplace Bernard Guy pour la semaine des Inuits. On a eu une belle semaine. Il y était 80 Inuits qui sont venus de cette île, avec tous les Blancs qui étaient là aussi, qui sont rattachés, qui sont des fois de la communauté. Une semaine bénie. Vendredi soir, on a eu des témoignages de vie transformés, des gens qui se reconsacraient. Beaucoup de larmes, beaucoup de prières, beaucoup de réponses à la parole de Dieu. Et je prenais du temps pour enseigner un retour aux sources, redécouvrir nos origines. Et de regarder la Genèse 1 à 4 et juste de reconnecter avec notre Créateur. S'il y a un endroit dans notre monde présentement qui est attaqué, c'est une attaque sur Dieu Créateur. Parce qu'évidemment, si on ne croit pas dans un Créateur, on n'a même pas besoin de parler d'un Rédempteur. Mais ça commence l'histoire avec un Créateur. Et c'est quand on réalise qu'on a un Créateur qu'après ça, on peut découvrir qu'il y a un Créateur qui nous aime tellement qu'il a trouvé un moyen de nous racheter quand on s'est rebellé contre lui. Et dans la Genèse, on redécouvre notre Créateur, on redécouvre notre relation avec notre Créateur, on découvre son amour, son attention, sa grâce dans tous les chapitres. On redécouvre des bases de notre foi qui, parfois, on vient à prendre pour acquis. Et souvent, comme pasteur, on va être porté à moins aller vers les Jean 3:16, les Romains chapitre 8, et les textes qu'on connaît tous par cœur, comme Genèse chapitre 3, et de passer à côté de des textes qui sont tellement importants pour la victoire dans notre foi. si vous êtes chrétien depuis moindrement d'années, que vous ayez 50 ans de vie chrétienne, que vous ayez 10 ans, rapidement vous découvrez que même après avoir donné votre vie à Jésus, il y a encore de la foutue tentation dans notre vie. Hein? Il y a toujours des vieux squelettes dans notre placard qui reviennent, des vieilles tentations qu'on pensait avoir maîtrisées, puis elles nous reviennent d'en face. Puis l'ennemi aime ça nous traîner la face dans le bout, puis dire, tu te dis chrétien, mais regarde, tu luttes encore avec ça. Regarde, tu t'es planté là encore, tu t'es mis encore en colère, tu as encore eu des mauvaises pensées, tu as encore refait ça. Là. Puis là, tu te sens ticoun, puis pas bon, puis il veut te garder de même, honteux. Hein? L'ennemi, ses sentiments, c'est pas la joie, la paix. L'amour, c'est la honte, la culpabilité, hein? C'est la colère, c'est l'irritation. Puis dans ce temps-là, bien, on devient immobile dans notre foi, stagnant, parce qu'il nous traîne dans la culpabilité et la honte. C'est sa stratégie. Il ne peut pas enlever votre salut si vous êtes enfant de Dieu. Il ne peut pas enlever votre statut d'héritier du royaume de Dieu si vous êtes enfant de Dieu. Mais il aimerait juste vous tenter et vous amener par votre chair à tomber et rester à terre, à vous traîner. Et une des bonnes choses, c'est de retrouver d'où est-ce que je tombe, pourquoi je tombe, comment il s'y prend pour être vainqueur. Il s'attaque à Jésus, vous savez, il n'y a pas trop de bassesse pour Satan. Il s'attaque à n'importe qui pour nous traîner dans la boue. Et il faut retourner à la Genèse pour regarder comment il s'y prend, comment il vient m'amorcer. C'est quoi mon espoir là-dedans? Genèse chapitre 3 touche à tout cela justement. Donc, redécouvrir nos origines. Y a-t-il une petite manette? C'est la manette qu'il faut que je prenne pour changer la diapo ou je vous dis de changer de diapo ou comment ça fonctionne? Ah, petite manette, comme au camp Patmos. Excellent. Excellent. Juste la mettre on. Es-tu on déjà? Sur le côté ici, on va la mettre on. Là, elle a vibré, puis elle est on. Non, cette semaine, j'ai été humilié de savoir que ma manette n'était pas on, c'est pour ça qu'elle ne marchait pas. Fait que moi, j'ai découvert le Python on, et ça fonctionne bien. Je pointe par là-bas, où pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Mais ça va venir sûrement. Pour l'instant, en tout cas. Ah, bon. C'est-tu toi qui l'as fait avancer en arrière? Bon, veux-tu que je te demande de simplement la prochaine diapo, prochain point, puis tu vas l'avancer? On va fonctionner de même? OK. Prochaine diapo. Et voilà. On est dans Genèse, chapitre 3, où après avoir vu les détails de la création, on voit la chute, puis après ça, après la chute, on voit comment ça déboule rapidement. Prochaine diapo. Et dans le chapitre qu'on va regarder ce matin, puis évidemment, on ne pourra pas s'étirer sur tous les points, on va juste passer à travers, on regarde la tentation, le péché, le châtiment, la grâce et la conséquence. Puis on va regarder à la place de ces points-là, 5 questions. Prochaine diapo. On va regarder, juste à faire aller les points un derrière l'autre, on va regarder ensemble comment la tentation opère dans nos vies. Ensuite, que fait le péché en nous? Quelles sont les conséquences du péché? Que fait la grâce de Dieu, qui est le clou du chapitre? Et est-ce que la grâce de Dieu enlève les conséquences de notre péché? Et je vais demander à mon ami Robert, si tu veux te lever pour nous lire, s'il vous plaît. D'habitude, j'ai, en tout cas, je vais te laisser lire les premiers 13 versets, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît.
Sinon, nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu décidant vous-même ce qui est bien ou mal. » Alors la femme dit que le fruit de l'arbre était bon à manger agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pains en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourir le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu? » Celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Adam répondit, « La femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » « C'est le serpent qui m'a trompé, » répondit la femme, « et j'en ai mangé. »
Merci, Robert. Père Céleste, bénis la lecture de ta parole. On vient de lire les saintes Écritures. C'est toi, Seigneur, qui as vu bon de nous instruire avec ce récit de cette chute humaine. Seigneur, instruis-nous ce matin, parle-nous, que nos cœurs s'attendent à toi pour être encouragés, être rappelés, être corrigés, être exhortés, être émerveillés de la grâce de Dieu dans tous ces chapitres de la parole de Dieu. Malgré nos chutes, tu es là dans ta grâce et tu nous relèves. Refais-nous, Seigneur, redécouvrir l'émerveillement, la gratitude de ta grâce ce matin. Et qu'il y a de l'espoir, qu'on ne reste pas découragé. Et nous te prions, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. C'est Paul qui nous parle dans Romains chapitre 7, qui nous dit, les choses que j'aimerais faire, je ne les fais pas, comme tout le temps, comme je voudrais, puis ce que je ne veux pas faire, je les fais. Et en somme, il dit, carrosse que c'est dur, la vie chrétienne. C'est fâchant, des fois. Puis là, on arrive au chapitre 8, et là, il nous dit, la solution, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. La seule solution, c'est que l'Esprit prenne toute la place. Et on définit même le chrétien. Il nous définit le chrétien au verset 10 et 14. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit Saint. Vous avez l'Esprit Saint. Vous êtes créé à son image pour relationner avec lui. Et l'Esprit Saint, tout à coup, lorsqu'il dirige dans nos vies, se tasse la chair et on a la victoire. C'est ça l'outil de Dieu. Mais une des choses que Dieu a vu bon de nous préserver, c'est les Écritures pour nous instruire sur comment l'ennemi s'y prend. Et comment il s'y prend ici, c'est la même méthode qu'il va utiliser aussi pour s'attaquer à Jésus lorsqu'il va le tenter dans le désert. Impitoyable. Et il va essayer de faire tomber Jésus, Dieu incarné en homme parmi nous. Il n'y a aucune bassesse trop basse pour l'ennemi. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il s'en prenne à nous s'il s'en prend à Jésus. Et souvent, ce n'est pas Satan lui-même, c'est notre chair, c'est les pressions du monde, c'est les tentations qui peuvent venir par toute son armée de démons. Satan n'est pas omniprésent comme Dieu, là. Il y en a qui disent, « Ah, le diable est après moi. » Oui, mais le diable est occupé un peu partout, là. Il n'est pas nécessairement après chacun de nous autres tout en même temps, là. Il n'est pas aussi fort que ça, là. Notre chair en a en masse à nous donner de la misère. Oui. Puis la tenir en laisse par l'Esprit de Dieu. Et on va redécouvrir ce matin comment l'ennemi s'y prend pour semer la tentation dans nos cœurs. Je lisais un auteur la semaine passée, puis il découpait le chapitre de manière intéressante. Je vous le mentionne parce que je trouve ça beau. Il disait, dans les premiers versets 1 à 6, on découvre la voie de la déception. Satan qui tente, la voie de la déception. Ensuite, malgré tout, Dieu le sait, il y a la voie de l'amour qui revient. Où est-ce que vous êtes? Il sait où ils sont. Mais il revient pour les reconquérir avec amour. Ensuite vient la voie du jugement, parce qu'il y a des conséquences, n'est-ce pas? Et malgré tout, vient la voie de la grâce. Dieu qui vient habiller. Et ça, c'est le clou de ce chapitre. Trois questions trois choses que l'ennemi va faire. On va regarder ces trois points-là. Premièrement, il commence par un questionnement. Dieu a-t-il réellement dit? Il sème le doute. Il veut semer le doute sur vos choix. Il veut semer le doute dans vos motifs, parce que c'est facile, hein, nos motifs sont tellement corrompus facilement. On fait des bonnes choses, puis quand on fait une bonne œuvre, on espère que quelqu'un nous a vu faire. Hein, même quand on fait le bien, on est en lutte avec les apparences, avec la gratification. Tu le fais-tu pour la bonne raison? T'es-tu sûr que Dieu vraiment, il veut pas que... Tu pourrais aller manger avec un collègue de travail du sexe opposé, c'est pas grave, puis développer une amitié, c'est pas trop grave, voyons, on fait ça, c'est pas écrit dans les Écritures. T'es-tu sûr que tu es dans tes impôts, telle affaire, c'est pas, tu sais, faut pas être plus saint que le pape, là, tu sais. Je sais que vous suivez pas le pape, là. L'ennemi, il sème toutes sortes de doutes, des choses parfois ridicules, parce que l'ennemi commence toujours par des doutes pour ouvrir une petite craque dans la porte de nos vies. Puis une fois qu'il est déclenché puis qu'un doute est semé, c'est plus facile de travailler à l'ouverture après ça. Hein? Mais tant qu'il est barré puis il est verrouillé, il n'y a pas de craque. Mais aussitôt qu'on l'a déverrouillé, qu'on l'a laissé, on a accueilli un petit doute. L'ennemi travaille. Puis tu sais, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Un petit doute. Puis là, tranquillement, tu sais. Bon, c'est-tu si grave que ça que je ne prenne pas un temps avec le Seigneur quotidiennement pour lui parler, même si je sautais une journée ou deux. Tu sais, je suis pas dans une religion, là, c'est pas... Tu sais, franchement, là, tu sais. Puis, bah, tu sais, même si t'es en vacances, je manquais quelques dimanches. Bah, c'est pas si grave. Je suis pas d'une religion, moi, là. J'ai pas un bulletin, le nombre de dimanches par année que j'assiste l'Église, puis j'ai un bon bulletin à la fin de l'année. C'est pas ça notre foi, tu sais. Puis là, on va rentrer des petits doutes, des petites banalisations que l'ennemi veut juste semer tranquillement. Puis on pense jamais que ça va nous amener ben loin. C'est des petites choses, tu sais. C'est bénin. Mais l'ennemi travaille avec des doutes. T'es-tu sûr que Dieu veut ça pour toi? T'es-tu sûr que ça, c'est si grave que ça? Peut-être, en vous posant cette question-là, il y a peut-être des doutes que vous réalisez, peut-être que vous allez laisser rentrer dans votre vie. Les doutes sont subtils. Ils sont tellement subtils qu'on ne les voit pas la plupart du temps au début. Il faut comme s'arrêter pour poser la question, « Seigneur, y a-t-il des doutes que je laisse rentrer? Des doutes sur ta parole? » Tu te dis des choses, mais franchement. Puis juste tranquillement. Et là, après ça, quand ça travaillait tranquillement au corps, sur quelques mois, quelques semaines ou quelques années parfois, là, on peut rentrer tout à coup une déclaration comme la prochaine. Après le questionnement, vient le prochain point. Tout à coup, le prochain point. Ouais, là, je vais vous garder pas mal alerte, là. Le mensonge. Le mensonge, il ne dit pas tout de suite en partant parce qu'on le reconnaîtrait, le mensonge, en partant, s'il nous le disait, right? Mais le doute amène tout à coup à une ouverture au mensonge. Et là, après ça, il peut dire, ben voyons donc, vous n'allez pas mourir. Nous, on a dit, ben oui, il a dit qu'on allait mourir. Même, il dit, littéralement, en hébreu, on dit, mourir, tu mourras. Fait qu'on le traduit, certainement, tu mourras. Mais quand un hébreu veut dire, c'est certain, il va redoubler le même verbe, tout simplement. Mourir, tu mourras. Et finalement, après le doute, il arrive à dire, ben non, tu mourras même pas. Il exagère. C'est pas aussi pire que ça. Mais au début, on l'aurait jamais accueilli, le mensonge. Mais avec l'usure, il ne faut pas se surprendre. Voici ce qu'on dit dans Apocalypse, chapitre 12, chapitre 20, sur ce serpent. Cette bête que finalement on se dit, écoute, un serpent qui parle en partant, c'est un peu inquiétant. Hein? S'il y a des serpents qui vous parlent, généralement, on va vous orienter vers une psychiatrie. Hein? Pourquoi il parlait, je ne sais pas exactement. Ça ne semble pas le surprendre. Est-ce qu'il avait la capacité de parler? Et c'est pour ça qu'on lui donne le mot qui est rusé. Le mot rusé n'est pas toujours négativement utilisé. Il est souvent dans les proverbes. Ce n'est pas nécessairement négatif à être rusé. Mais là, ici, il utilise la ruse comme subterfuge pour séduire, pour faire tomber. Et là, on voit que c'est négatif. On dit dans Apocalypse, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, appelé Satan, donc l'accusateur, celui qui séduit toute la terre. il fut précipité. On le répète au chapitre 20. Ce dragon, le serpent ancien. Et clairement, Satan est identifié à cette bête au début qu'on ne nous donne pas toute son identité, tout le détail. Puis il ne semble pas c'est bien, bien grave de savoir tout le détail, autant de ce qu'il a fait. Comment il était, puis comment il s'est ramassé après ça à être maudit, à être sur le... Y avait-tu des pattes avant? On ne le sait pas bien, bien. Puis c'est pas autant important que ce qui s'est passé comme histoire. Le détail, quand le texte ne nous donne pas trop, trop de détails, il ne faut pas trop spéculer, puis aller trop loin, pelleter les nuages de spéculation. On va perdre notre temps, puis on va passer à côté de la leçon. Mais il a utilisé la ruse. Puis il a réussi à rentrer le doute, et ensuite, il a pu placer un mensonge. Un mensonge béant. Il dit le contraire de Dieu. Non, non, tu ne mourras pas. Et là, ensuite, le comble. Après que le mensonge soit accueilli, qu'est-ce qu'on peut amener maintenant comme doute ultime? Prochain point. Vous serez comme Dieu. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Mais nous autres, on se dit, c'est ridicule, Joël. Nous autres, on ne tomberait jamais là-dedans en 2025. Ben trop éduqués. Ben trop instruits. L'Internet, on lit tout, on ne tomberait jamais là-dedans, nous autres. Mais comment ça se présente, cette illusion-là d'être comme Dieu? Il dit, quand vous allez connaître le bien et le mal, comme lui, puis il ne veut pas que vous voyez. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il sème un doute que peut-être que Dieu veut nous priver de quelque chose qui nous amènerait à être comme lui, qui veut nous priver d'avoir accès à la divinité. Mais la subtilité là-dedans, c'est que, vous savez, toutes les religions du monde, c'est ce qu'ils nous vendent. Toutes les religions du monde nous disent, dans le fond, au bout de compte, quand que le salut en Jésus-Christ est enlevé, c'est que tu peux travailler à gagner ton ciel. Puis si tu peux travailler à gagner ton ciel ultimement, bien, tu es comme Dieu, tu es capable de devenir Dieu parce que tu pourrais aller au ciel sans passer par Jésus. C'est l'illusion d'être comme Dieu. Que je pourrais plaire à Dieu, je pourrais travailler à mon salut. Pas besoin d'être mormon pour ça, qui croit qu'à force de travailler, puis à un moment donné, tu peux devenir parmi les dieux. C'est ça qu'ils croient littéralement. Chaque religion prône par la réincarnation, à un moment donné, devenir un avatar. Puis d'avoir le ciel dans leur langage à eux, par la forme de réincarnation, on se réincarne, puis on s'améliore, puis à un moment donné, on arrive à voir aller au ciel. On bypasse Jésus, on bypasse le fait qu'on est pécheur, on bypasse que par nos moyens humains, il y a un moyen, que ce soit le purgatoire pour nous purger, pour éventuellement être prête à aller au ciel. C'est des moyens alternatifs pour aller à Dieu qui nous donne l'illusion qu'on peut être comme Dieu sans reconnaître qu'on est perdu, puis qu'on doit passer par Jésus. Il n'y a rien de nouveau. Puis ça nous tombe tout cul dans le bec dans la même séduction en 2025, les amis. C'est subtil, c'est toujours très subtil qu'on peut ultimement gagner notre ciel. On ne dira pas de même en partant, parce qu'on nous travaille au corps par des petits doutes, après ça, le mensonge, puis après ça, l'illusion. Peut-être que je pourrais. Peut-être que Dieu, il ne veut pas que j'aille ça parce qu'il veut me priver de quelque chose. Aujourd'hui, on le fait beaucoup. La sexualité, par exemple. Ben, tu sais, c'est pas grave. On va se donner des idées comme, ben, tu sais, on est fiancés, fait que même si on couche ensemble, c'est pas grave. On va rester fidèles après ça. C'est un papier. On va banaliser la sexualité comme si c'était quelque chose de biologique. C'est pas rien de spirituel, d'émotionnel. C'est biologique. Donc, c'est juste une action. On peut avoir du plaisir puis passer à d'autres choses. Puis là, ben, peut-être Dieu va nous priver d'avoir, dans le fond, plusieurs partenaires, puis le plaisir. On doute, puis on pense que Dieu, peut-être, n'est pas aussi bon qu'il nous le dit, puis qu'il veut nous empêcher d'avoir des plaisirs. Parce que finalement, des gens nous disent dans le monde qu'ils ont du plaisir. Ils ne nous racontent pas après la dépression qui suit, après le plaisir, qui est temporaire. Puis après ça, ils ne se vantent pas du remords. Ils ne se vantent pas de devoir consommer pour pouvoir s'endormir, parce qu'ils n'arrivent plus à s'endormir. La culpabilité qui ronge, les pilules qu'ils doivent prendre pour anesthésier leur mal. Ils ne se racontent pas ça. Ils ne diront pas qu'après l'avortement vient de la honte, de la lutte, des fois la dépression, des débalancements chimiques, des fois des problèmes d'avoir d'autres enfants. Ils ne racontent pas ça. Il y a l'illusion que tu es au contrôle de ton corps, puis c'est juste, tu flushes, puis tu sais, tu fais d'autres choses, puis tu choisis, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. L'illusion d'être au contrôle. Mais on ne raconte pas les conséquences d'après. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puis ça se passe encore en 2025. C'est les mêmes mensonges. Et pourquoi je vous développe toutes ces questions-là? Parce que il y a peut-être dans ta vie des doutes, des mensonges qui sont rentrés tranquillement, des doutes sur Dieu, sur sa bonté. Une des plus grandes luttes avec l'être humain, vous savez, même devenu chrétien, c'est d'accepter que Dieu m'aime vraiment. Et quand tu n'as pas eu un père, une mère qui t'aime, c'est dur d'accepter l'amour, un amour pur, sans profiter de toi, sans pour avoir quelque chose. Et ça amène des doutes sur la bonté de Dieu. Et s'il y a un doute sur la bonté de Dieu, les amis, ça laisse de la place à tellement de choses dans nos vies qu'on se prive. Et si vous doutez de l'amour de Dieu ce matin, que le Seigneur vous réconcilie pleinement avec son amour. C'est une des plus grandes vérités essentielles à grandir. De savoir qu'on est aimé, chéri, que Dieu est bon, est une des vérités les plus importantes à notre croissance chrétienne. Un des livres dans les dernières années que j'ai beaucoup apprécié était le livre « Doux et humble de cœur » par Dane Ortlund. Ça, c'est pas le genre de livre qu'il faut que tu lises vite, là. Non. Tu lis un chapitre par semaine, tu le digères, tu regardes les versets qui sont là. Tu relis ces textes que tu connais pour redécouvrir comment Dieu est bon et comment Jésus, qui est doux et humble de cœur, c'est le Père céleste, c'est Dieu incarné en homme qui nous fait ressentir sa bonté à travers Jésus. Puis que cette bonté-là, cette richesse de son amour, soit l'objet qui nous amène du bonheur et de l'épanouissement. Satan veut nous faire douter de ces vérités les plus essentielles à notre croissance, dont la bienveillance de Dieu. Non, Dieu ne veut pas vous priver d'aucun bonheur. Au contraire, la parole de Dieu, c'est le manuel du fabricant. La parole de Dieu, tu sais, quand tu achètes un meuble, puis tu veux que tu montes un meuble, ou tu achètes une bébelle, puis il y a un manuel, ça, d'épée, qu'on ne lit tout pas, là. En plein de langage, pour que tout le monde puisse le lire, pour avoir l'information, puis les troubleshooting, tel problème, voici comment le régler, puis comment faire un bon usage de la bébelle pour ne pas le brûler, briser, je veux dire, puis pas non plus faire du mal à quelqu'un d'autre. On ne lit jamais Emmanuel. Ben oui, c'est ça. Il y a des meubles, on magane, puis on brise des affaires, hein? Puis là, finalement, tu as monté ton meuble, puis il y a quelques endroits mou parce que là, tu as pété des vis à un endroit que tu n'étais pas supposé de mettre des vis, là. Puis là, tu peux juste utiliser ton gros bon sens, là. Puis après ça, on se demande comment ça, notre meuble ne tient pas longtemps. La parole de Dieu, c'est notre manuel du fabricant. Puis souvent, on le traite de la même façon, notre manuel du fabricant, qu'on le fait pour d'autres achats. On ne lit pas tous les troubleshooting. C'était tel problème, voici comment le régler. Voici pour quel usage c'est donné. Pour maximiser que ce qui a été fabriqué soit utilisé à son plein potentiel. Vous me suivez? Le plein potentiel, c'est le manuel du fabricant qui nous dit l'optimal qu'on peut utiliser et l'optimal de ce corps que Dieu nous donne pour qu'on n'ait pas de regrets, qu'on soit heureux, qu'on s'épanouit, même dans un monde pécheur, et qu'on optimise notre vie, c'est le manuel du fabricant. Mais l'ennemi veut nous faire douter que le manuel du fabricant, le fabricant est si bon, puis qu'il ne veut vraiment pas nous brimer dans rien par ses règles. Non, c'est parce qu'il sait qu'on va briser notre corps, notre conscience, notre cœur. C'est tellement important. Tellement important. Prochaine diapo. Vous connaissez bien ce texte, c'est bon de le relire. Jean 8. Vous avez pour père le diable. À ces hommes qui étaient religieux, parce qu'ils pouvaient gagner leur ciel. Eux autres, ils étaient dans ce mensonge-là. Votre père, c'est le diable, c'est pas Abraham. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est ça qu'on lit. Genèse chapitre 3. Jésus croyait à Genèse chapitre 3, les amis. Il croyait à toute la Genèse, chacun des chapitres. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond, de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Mais il joue avec les vérités. Il prend des bits de vérité hors contexte. Même avec Jésus, hein, il a pris des paroles de la parole de Dieu pour y shooter hors contexte, pour le tenter. Il prend les paroles, il est tort. Il met un peu de vérité qu'un peu de mensonge. Un peu de vérité, mais pas dans le bon contexte. Un peu de vérité avec des questions malveillantes pour semer dans la vérité un doute de la vérité. C'est tellement subtil. Soyons aguets Puis posons-nous les questions ce matin. Y a-t-il des choses, Seigneur, dans lesquelles j'ai tranquillement trempé dans le doute, que j'ai besoin de te redonner ce matin? Pardonne-moi, Seigneur, de douter dans tel domaine. J'ai laissé rentrer tel mensonge ou tel péché. Puis c'est pas venu du jour au lendemain, j'aurais pas pensé me rendre là. Le pot est redevenu légal, puis là, tout à coup, je refais mes expériences des années 70. Puis là, je réalise que moi, j'en m'en fous un à tous les soirs avant de me coucher. On n'en parle pas beaucoup, peut-être, d'un boomer, mais c'est un fléau, ça. Mais c'est devenu légal, fait que c'est correct. Ben oui, ça va être avorté, c'est légal. Puis le mariage de deux sexes pareils, c'est légal. En fait, que c'est légal, ça ne veut pas dire que c'est bon pour vous. Hein? Il y a plein de petites choses subtiles que le Seigneur nous accorde de s'examiner ce matin. Tous et chacun. Personne est au-dessus de tout ça. Et je me parle à moi-même le premier ce matin. Je me prêche à moi-même pour commencer. Ensuite, prochaine diapo. Que fait le péché en nous? Remarquez bien ce qu'il fait. Premièrement, prochain point. Il est contagieux. Il se propage et il entraîne d'autres avec lui. En fait, vous savez quoi? Le péché, c'est comme la gastro. On n'en veut pas. Restez chez vous, s'il vous plaît. On est devenu tellement paranoïaque chez nous avec les lavières, là, quand il y avait 10 enfants à la maison. Là. Puis là, des fois, c'est rentré, une année, je vous le dis, là, 6 semaines non-stop. Ça a fait un coup, puis Anna l'a eu 4 fois. Oh! Puis elle vomissait, sa vie était amaigrie, faible. Seigneur, comment tu peux nous délivrer de la gastro? Parce qu'une fois que ça rentre, c'est dur de sortir. À la fin, là, ma femme, depuis quelques années, là, c'était l'isolement total. Là, c'est 48 heures dans ta chambre, tu ne sors pas de là. Il y a une toilette décontaminée pour les purs, puis les impurs vont à cette toilette-là. Personne n'y va. On va porter avec des gants dans la chambre. Il ne sort plus pendant 48 heures, là, jusqu'à temps que c'est passé. Là. Puis c'est la paranoïa totale chez nous. Là. Ma femme a instauré des règles pour survivre à la gastro, pour plus qu'elle contamine. Puis là, avec toutes les règles sanitaires de la pandémie, on est devenu finalement qu'on a l'air d'être sain d'esprit de faire une affaire de même. Là. Ils n'appelleront même pas à DPJ, même si tu enfermes ton enfant 48 heures, là, parce que là, c'est la gastro. Tu peux te cacher derrière la gastro tout à coup, hein, c'est fou. Parce que quand ça rentre, là, t'es tellement écœuré, là. La gastro ne veut pas rester tout seul avant d'embarquer quelqu'un avec elle. C'est ça le péché. Tu ne le fais pas tout seul. Tu le fais avec quelqu'un. Tu traînes ton mari ou ta femme avec toi dans le péché. Tu traînes ton meilleur ami, ta meilleure amie avec toi dans le péché. Parce que si tu es tout seul, tu as l'air un peu zouf tout seul. T'sais. Tu te fais poigner tout seul, tu es tout seul. T'sais. Mais si tu es deux, tu peux toujours blâmer un autre. Hein. Puis à deux, tu es comme, ben, c'est moins gênant à deux ou en groupe, mettons, qu'on est tombé dans le même péché que tout seul. Tout seul, c'est gênant. C'est vraiment gênant. Mais en groupe, en gang, en communauté au complet, c'est moins gênant. Le péché contamine. Je ne veux jamais rester tout seul, comme la gastro. Il faut toujours amener quelqu'un d'autre avec moi. Il y a toujours des dommages collatéraux, sous-estimés, subtilement, qui sont emportés. Ensuite, on remarque avec le péché, un autre point, il est irresponsable, il blâme. Il ne prend jamais responsabilité. Ben là, Seigneur, c'est, je n'osais pas te le dire, mais tu sais, c'est la femme que tu m'as donnée. Tu sais, celle que tu as créée à mon image, qui était supposée être mon secours, mon aide. Là. C'est le mot « secours » qui est là, là. Les femmes viennent au secours de nous, les hommes. Là. Ben là, ton secours, là, elle m'a tenté. Là, c'est elle qui me l'a dit de le faire. Mais c'est qui avait donné la femme à l'homme? C'est Dieu. Fait que finalement, il est en train de dire que c'est à la faute de qui? Yeah, ouf. On va loin, hein? Parce que le péché est irresponsable. Il est toujours en train de blâmer. Là, la femme est beaucoup mieux. Elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est le serpent. C'est pas de ma faute. C'est qui a créé le serpent? Oui, c'est vrai, c'est Dieu. Hein? Fait que c'est la faute de Dieu encore, finalement. C'est les créatures que tu as faites, Seigneur, qui me font tomber. Puis on est toujours en... Puis tant que tu as quelqu'un à blâmer dans la vie, ça va quand même assez bien, quand même. Hein? C'est quand tu n'as plus personne à blâmer. Puis là, tu es obligé de te regarder dans le miroir. Là, c'est moins drôle. Mais le péché fait ça. Tant que je peux blâmer et rendre quelqu'un d'autre responsable, je peux mieux vivre avec mon échec, avec mon péché. Mais le péché est comme ça. Le péché, il est comme cette question. Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Puis là, tu renvoies une question, tu sais, à une question. Comme à Caïn et à Abel, hein? Qu'as-tu fait? Où est ton frère, hein? Ben là, je suis responsable. Il renvoie une question à Dieu. Non, mais l'infronter. Tu poses une question à quelqu'un, puis là, il te renvoie une question parce qu'il ne veut pas répondre à la question. Tu sais dans la conversation que ça va déjà mal. Quand on te renvoie une question pour te faire sentir mal, de poser une question. Là, on essaie d'éviter. Là. Tu dis, oh, il y a quelque chose, il y a un guet sous roche. Pourquoi on renvoie la question à Dieu, on ne veut pas y répondre? Parce qu'on se déresponsabilise. Et on veut faire sentir mal la personne qui nous pose une question inconfortable pour le rendre inconfortable, pour ne pas avoir à se dévoiler nos cartes, notre jeu, et le garder contrôlé, privé. C'est ça qui fait le péché. Quoi d'autre qui fait le péché? Troisième point, il offre des excuses, des explications. Jusqu'à temps qu'il soit perdu. Il y a une image que j'aime beaucoup et qui est tellement classique du péché. Dans une tribu de l'Afrique du Nord, ils ont développé une cage spéciale pour pogner et attraper les singes. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vident une calebasse, ils percent un trou juste assez gros pour que le singe puisse rentrer sa main dedans. Et ils l'attachent ça après un arbre à une place. Et là, ils mettent des pinottes à l'intérieur. Le singe rentre sa main à l'intérieur. Là, il pogne les pinottes. Mais parce qu'il fait le point, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il ne veut pas lâcher les pinottes. Puis parce qu'il ne veut pas lâcher les pinottes, puis il pourrait être libre en lâchant les pinottes. Il se fait pogner. Il se fait attraper ou tuer ou manger ou peu importe. Victime de quoi? De son désir. Son trésor. Il aurait son précieux. Mais tout ce qu'il avait à faire, c'est quoi? Montrez-moi là. Tout ce qu'il a à faire, c'est quoi? C'est-tu dur un peu lâcher quand t'as pogné, puis tu l'aimes, puis là tu y as goûté, puis finalement l'illusion est venue, puis « j'aime tellement ça, là, je sais que je l'aurais pas, mais... » Puis là tu lâches pas la pinotte. On a toutes des pinottes, tu sais, qui... On a toutes des pinottes qui sait c'est quoi notre pinotte qu'on s'accrocherait après, hein? Notre point faible. Parce qu'on veut pas lâcher. Prie à excuser. Prie à se déresponsabiliser. Et là vient évidemment les conséquences. Prochain point. Quelles sont les conséquences? On apprend que la créature elle-même a des conséquences physiques. Et là, je vais te demander de nous lire à partir du verset 14. Robert, s'il vous plaît. Verset 14 jusqu'à la fin. On va apprendre ici exactement ça, les conséquences sur la créature elle-même, sur la créature spirituelle qui l'a contrôlée, qui est Satan, et ensuite sur la femme et sur l'homme.
Tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque tu as été tiré de celle-ci. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme nomma sa femme Ève, vie. Elle est devenue, en effet, la mère de toute vie humaine. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Puis il dit, voici ce que l'homme est devenu. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante tournoyant en tout sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie.
Merci, Robert. Donc, les conséquences sur l'animal elle-même qui prend une responsabilité, les conséquences sur l'ennemi. On dit la tête va être écrasée. Et on parle ici de sa semence. On comprend ici, en lisant attentivement, qu'on n'est pas en train de parler finalement de la semence du serpent, mais de la semence ou la descendance de celui qui l'a incité au mal. La descendance de ceux qui suivent cette ruse, qui suivent le mal, qui suivent Satan, et la descendance de la femme. Il va avoir une inimitié. Puis là, on comprend ici que ce n'est pas à cause de ça que les femmes ont peur des serpents, mais que c'est beaucoup plus profond que ça. La descendance de ceux qui descendent de la femme vers jusqu'au Messie, l'idée est là. Et ceux qui suivent le mal et l'hostilité, je vais mettre l'hostilité entre ceux qui suivent le serpent puis ceux qui suivent les descendants de la femme qui suivent l'Éternel. Je mets de l'inimitié, il va y avoir une guerre qui existe là, une hostilité littéralement qui est écrite là. Et ensuite, il va parler des conséquences, puis aussi que sa tête va être écrasée, il va blesser le talon. Et là, les Écritures nous disent ceci, vous pouvez écrire à côté Romains chapitre 16, verset 20, à côté de ce verset-là. On dit ceci, « Et Dieu, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. » Ce talon blessé, c'est Jésus qui a le talon blessé, mais qui est ressuscité. Et les pères de l'Église appelaient ce texte-là le proto-évangile, c'est-à-dire la première évangile. Une promesse qu'une descendance viendrait qui va écraser le diable et son pouvoir. Il y aura une blessure au talon, mais qui ne sera pas mortelle. Et ça, c'est ce que Jésus a fait. Et cette vérité-là est tellement importante, c'est une déclaration de promesse qui va être importante pour la foi de Adam et Ève, un espoir après leur chute. Je vous lis ici, prochaine diapo, un texte qui vient de la Bible annotée. Et ils l'ont tellement bien résumé ici. Il dit, l'histoire biblique se distingue de tous les autres récits qui rattachent immédiatement après la première chute, après une promesse, afin de ne pas laisser un seul instant l'homme déchu sans secours et de lui apprendre non pas à reporter sans cesse les regards inutiles vers un passé perdu, mais à regarder en avant et à croire à l'accomplissement d'un salut futur. C'est de cette parole que s'est alimentée l'espérance des peuples jusqu'à la venue de celui qui devait enfin réaliser cela parfaitement. Dans la plupart des mythologies anciennes, le serpent est considéré comme un être mystérieux, surnaturel, tantôt redouté comme une incarnation d'un esprit mauvais ou d'hostilité à l'homme, tantôt adoré pour qu'on puisse connaître l'avenir, hein? Des sorts qui sont tirés avec des affaires de ossements de serpent, etc., ou des guérisons des malades, comme Escalapioche chez les Grecs. Il n'est pas impossible que des conceptions diverses ne proviennent d'un souvenir confus qu'avait laissé, en fait, la chute dans la mémoire collective des peuples qui, de plus en plus, s'éloignaient de Dieu et de la vérité. Déjà, une première bride de l'Évangile est semée, une vérité d'espérance. Prochaine diapo, un petit résumé ici de ce qui arrive à l'homme et la femme. Le jugement divin frappe la femme et l'homme dans ce qui constitue la spécificité de leur vocation, l'enfantement pour la femme, le travail pour l'homme. Et dans les deux cas, il y a des choses difficiles qui vont arriver dans les deux sphères. Peut-être que vous ne trouvez pas ça égal, mais Dieu a donné une conséquence dans chacune des sphères, des deux. Travailler fort, puis tu vas bûcher, puis là, le sol maintenant, il ne sera pas aussi facile qu'il l'était dans le jardin d'Éden. L'enfantement, tu vas en avoir quand même des enfants, mais là, maintenant, ça va venir avec de la douleur. Ça va être tough. Ça va être tough. Cependant, ce jugement n'aboutit pas à l'anéantissement de l'humanité. La procréation reste possible. Dieu n'enlève pas la procréation. Le sol, malgré tout, va donner du fruit quand même. Et ce sont des signes de la grâce divine au sein même du jugement de Dieu. Il y a déjà de la grâce qui est donnée. Il n'enlève pas ce qu'il y a de besoin pour vivre et la possibilité d'accomplir, de se multiplier. Mais ça va être tough. Puis à chaque fois que c'est tough, tu peux te plaindre, tu peux te mettre en victime ou tu peux te rappeler que c'est des conséquences. Puis Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas chialer dans les conséquences du péché comme si j'étais une victime. Je suis dans un monde pécheur, j'en fais partie. Accorde-moi la grâce de vivre avec dignité dedans. Mais dedans, il y a aussi une petite phrase dans le chapitre, au verset 16, hein, qui parle de la relation entre l'homme et la femme qui va être affectée. Aussi, regardez la fin du verset 16. Cette petite phrase-là est souvent minimisée ou pas regardée à sa pleine valeur, mais on parle de l'enfantement. Puis après ça, on dit, « Mais tes désirs, la femme, se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » C'est quoi ça veut dire, ça? Il y en a qui ont interprété que la domination des hommes, c'est une conséquence sur les femmes. Ce n'est pas ça. Le désir ici, c'est quoi le désir? Si vous vous rappelez le chapitre suivant, qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Il dit, « Tes désirs vers le péché se portent vers toi, mais tu peux y résister. » La même expression est utilisée là. Ici, le désir est négatif. Et là, ici, c'est le désir de la femme qui, elle, vient de l'homme, de sa côte, qui, à quelque part, désire son autorité, son leadership, d'être le premier. Il y a une tension qui va exister maintenant entre la femme et l'homme, une contestation. Puis là, l'homme, lui, comment il va réagir? « Oui, chérie, il n'y a pas de problème. Hein, » c'est comme ça partout autour de nous, hein? « Hey, 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 femme! Hey! » Puis là, on lève la voix, on sort les muscles, on est fort, et qu'est-ce qu'on fait plutôt? On réagit mal comme pécheur, on domine la femme. Dieu n'a jamais dit de dominer la femme, nulle part dans l'Ancien Testament, là. Jamais le mot « dominer » est utilisé dans notre relation, dans nos rapports avec les femmes. Jamais! L'homme a été demandé, mais qu'est-ce que l'homme fait quand il est contesté? Quand il est attaqué, critiqué. Hey! Il est timide, il domine par sa force, plutôt que d'être le leader serviteur que Dieu l'a appelé dans le jardin à être. C'était pas comme ça dans le chapitre 2, là. La femme vient comme un secours pour compléter l'homme. Un mot utilisé pour parler de ce que l'Éternel fait généralement pour nous, le secours. La femme complète l'homme, sa côte, c'est des partenaires, deux, créés à l'image de Dieu, des vis-à-vis, une complicité, une camaraderie, une amitié pour la vie. Je suis pas complet sans elle, puis elle sans moi, puis de la côte pour avoir cette complicité, pas une domination. Chacun avec son attribut pour ensemble être capable de remplir la terre. Appelez tous deux à dominer, à commander la terre, littéralement, les deux. Et là, tout à coup, par le péché, nos couples sont attaqués parce que là, la femme voit tous les manquements de l'homme. Puis l'homme, quand il se fait critiquer, bien lui, il domine, il n'est pas réceptif. Puis là, on n'est pas satisfait dans la vie de couple. Puis on est brisé. Tout ça, ça vient de où, les amis? Ça vient de là, c'est le chapitre 3 qui nous parle, nos chicanes de couple, c'est tout là qu'ils trouvent leur origine, là. Ah, oh, mais c'est pas de ma faute, tu sais, c'est la faute d'Adam puis Ève. Un jour, mon père me rappelait l'histoire, parce que j'avais dit ça, mais j'allais avoir une tape aux fesses. Il dit, papa, c'est pas de ma faute, c'est à cause d'Adam puis Ève. Le théologien en moi est allé y sortir ça. Lamentable, hein? Moi aussi, je fais partie de... C'est pas de ma faute. Mon père était surpris, puis il a pris du temps à m'expliquer sa surprise et ma mauvaise théologie de blâmer et de ne pas prendre responsabilité pour moi-même. Mais c'est de là que vient nous... Si on comprend ça, là, OK, c'est pour ça que je vois tous les manquements de mon mari, là. Ah, c'est pour ça que je ne suis pas réceptif quand ma femme me dit des choses. Ça vient mettre en cause ma masculinité, puis là, je dois être au-dessus de mes affaires, puis là, je ne suis pas réceptif, là, c'est de là que ça vient, là. Arrêtez de vous donner des coups de coude, les amis. Arrêtez, j'en ai vu quelques-uns, là. Arrêtez, là. C'est chacun votre faute, là. C'est tellement ça, hein? Genèse chapitre 3. Que le Seigneur nous accorde sa grâce de vivre au chapitre 8 de Romains. D'être conduit par l'Esprit-Saint, pas par mes désirs. Pas par mes insécurités comme homme, pas par ma critique comme femme envers ce que mon mari manque, parce qu'il en manque. Puis pas envers ma femme, parce que j'aime pas ce qu'elle me dit, puis ça me dérange, puis souvent elle a raison. C'est fatiguant, en plus elle a raison. Hein? C'est ça, l'homme et la femme maintenant. Que le Seigneur nous accorde de vivre dans la liberté, d'être victorieux en Jésus-Christ. Il y aurait tellement à dire là, mais je vais arriver au clou. Prochaine diapo. Qu'est-ce que Dieu fait? Allez-y, prochain point. Alors, Adam manifeste sa foi en nommant sa femme Ève, Chava, duquel on a le mot en grec, Zoé, vie. Donc, c'est le verbe, celle qui donne la vie. Ma deuxième fille s'appelle Ève. Régulièrement, je vais l'appeler Chava. C'est un petit mot d'amour. Elle sait qu'il y a juste son père qui l'appelle comme ça. Celle qui donne la vie. Mais qu'est-ce qu'il n'y avait pas encore d'enfant? Sur quelle base qu'il dit ça? C'est sur la base de la promesse, avoir une descendance. Dieu le dit. Il la nomme sur la base du proto-évangile, de ce qui a été dit. Elle aurait une descendance. Et par la foi, dans ce que Dieu a dit, il la nomme ainsi, celle qui donne la vie. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il lui confectionne immédiatement en réponse à sa foi. Prochain point. Il lui confectionne un habit. Il va le revêtir d'une peau d'animal. Qu'est-ce qu'il avait fait plus tôt pour se revêtir? C'est tellement nous autres, hein? Au lieu de se couvrir de notre honte avec les outils de Dieu, qui sont que de grâce, on se travaille un habit de feuilles de figue. On se construit notre propre manière de se couvrir. Il dit, non. J'ai un bien meilleur vêtement, un vêtement permanent qui te blanchit. Tant que tu portes ton vêtement de figue, là, de feuilles de figue, là, on le voit que tu es pécheur. Mais le vêtement qui a versé, vous avez imaginez le Créateur qui a créé cet animal-là, puis là, il va égorger un animal, il va y défaire la peau sanglante, et là, tout le coup, Dieu fait ça pour couvrir la nudité de l'homme et de la femme. Pensez-y, vous êtes déjà arrêté à ça. Dieu est obligé de faire le premier acte d'égorger, de faire couler du sang pour couvrir notre honte, parce que notre vêtement n'était pas suffisant. Celui qu'on veut se fabriquer, qu'on mérite, qu'on fait de nos propres forces par la religion, hein, il couvre superficiellement. Il ne durera pas longtemps. Il fallait que ça passe par un animal, une image de ce que Christ va faire. Hein. Ça va passer par le sang de Jésus, un sang permanent. C'est pour ça qu'il va dire plus tard que le sang de Jésus parle plus fort que le sang de Abel. Son sang, lui, va enlever... Pas juste un vêtement, là, va nous revêtir. Nous, on est plutôt comme Jacob le trompeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un vêtement, lui, pour tromper. Pour arriver à ses fins. Dieu utilise un vêtement sanglant pour couvrir nos péchés. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint dans Genèse chapitre 1 qui planait. Un vol attentionné comme un aigle qui surveille son nid. Hein, c'est le mot utilisé là, pour parler de l'action du Saint-Esprit à la création qui planait au-dessus. Toutes des images de l'attention aimante de Dieu, exceptionnelle. Appréciez, les amis. Appréciez comment il s'est sacrifié Dieu pour nous revêtir d'un vrai vêtement qui a coûté cher pour lui, qui a du sang des mains pour ça. Prochain point en terminant ce point-là. Le sang coulé pour les vêtir était une analogie de ce que, évidemment, que Christ allait faire. Prochaine diapo, la dernière question. Est-ce que la grâce enlève les conséquences de notre péché? Prochain point. Vous savez, quand tu calcules les conséquences d'un acte après avoir été séduit par le doute, tu dis, « Ah, je vais juste faire ça, puis il n'y arrivera pas grand-chose, ça va s'arrêter là. » Rappelez-vous que dans votre calcul des conséquences, c'est possible de mal calculer, d'avoir des mauvaises mathématiques. Un autre auteur a déclaré ceci, prochain point, « Votre péché peut vous amener toujours plus loin que vous avez pensé aller. Il sera toujours plus cher que vous avez pensé payer et prendra toujours plus de temps que vous avez pensé rester. » Parce que c'est comme un hachoir dans lequel tu rentres la main puis qui tire, puis il n'arrêtera pas jusqu'à temps qu'il est tout arraché. C'est juste la grâce de Dieu. J'ai un ami qui a déjà vécu ça. Puis quelqu'un a tapé ça quand il était rendu ici. Mais ça aurait été jusqu'à sa mort si quelqu'un n'avait pas tapé sur la plug. Le péché fait ça avec nous, il tire jusqu'à temps qu'il t'ait tout pris, qu'il t'ait siphonné, détruit. Ça coûte cher. Mais nous, on calcule, on se dit, je suis capable de garder ça sous contrôle. C'est une illusion. Et Dieu n'enlève pas les conséquences. Des fois, il est gracieux, puis il le fait. Mais si j'ai eu un enfant dehors du mariage, ben, je vais le voir toute ma vie. Mais en même temps, ce Seigneur est capable d'utiliser ça comme un rappel de sa grâce, qui m'a pardonné, puis que je ne suis plus juste cette erreur-là. Vous comprenez? Mais il n'enlève pas les conséquences. Il veut nous rencontrer dans les conséquences. dans la faiblesse qu'on va devoir transporter. Il veut te rencontrer dans ce vieux souvenir, dans cette vieille cicatrice que parfois tu dégales puis qui me fait mal, puis que je vois. Mais te rappeler, Dieu m'a pardonné, sa cicatrice à cause que Dieu m'a pardonné, puis ça me rappelle que Dieu est bon, puis que je ne suis pas juste ça, puis que Dieu me fait du bien même dans ma cicatrice. Puis il me ramène à être faible et dépendant de lui, puis c'est correct. Je vais le vivre avec dignité. Prochain point. La grâce n'enlève pas les conséquences et les souvenirs. Cependant, ces mêmes conséquences et souvenirs peuvent nous servir également d'aide-mémoire à la grâce de Dieu qui a surabondé là où le péché a abondé. Et qu'on ne soit plus juste défini par cela. Prochaine diapo, je pense que c'était terminé là. Ah, un choix. Un choix. Je peux mettre de l'avant l'ampleur de mes fautes et rester là. Et je peux me vanter de la grâce de Dieu aussi envers mes fautes. J'ai un choix à faire entre les deux. Me victimiser ou cultiver la reconnaissance. La victimisation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle me met de l'avant et regarde l'échec. Elle contemple l'échec. Et cela amène à la mort. La reconnaissance, elle produit la force pour les affronter les conséquences avec dignité, sans me plaindre tout le temps et ne pas être submergé. La reconnaissance produit la vie, une vie qui s'abreuve à la grâce de Jésus, le Messie, le Sauveur envoyé par le Créateur. On a un choix. Quel est mon choix ce matin? Est-ce que je suis dans la victimisation et donc en train de me déresponsabiliser, pauvre de moi? C'est un orgueil caché, ça. On se porte vers nous-mêmes. Ou est-ce que ce matin, j'apprécie vraiment ce que Dieu a fait? Et qu'on va prendre des éléments, justement, et j'aimerais vous inviter à les prendre ce matin avec le chapitre 3 en arrière de la tête, à contempler ce vêtement que Dieu a confectionné en égorgeant lui-même. Et c'est lui-même qui a permis le prix que Jésus soit égorgé également. Il l'a fait volontairement, Jésus. Il a obéi au Père. C'était le seul moyen de fabriquer un vêtement permanent pour nous. Ce matin, j'aimerais vous inviter, en prenant ce sang, de vous rappeler ça, ce symbole de Dieu lui-même qui égorge, tellement qu'il nous aime, tellement que vous êtes précieux, qu'on est précieux à ses yeux. Puis qu'il n'a pas été cheap dans le paiement. Et ça, les amis, là, ça devrait nous enlever de nos yeux, de notre pauvre de moi, de mes erreurs, de mes fautes, garder les yeux dans mon caca, puis me faire traîner à terre dans la honte, puis dire non, merci. Moi, je veux remercier celui qui m'a libéré. Moi, je veux vanter celui qui m'a sorti de ce que je faisais avant. Oui, j'étais comme ça, mais Dieu m'a sorti, gloire à Dieu. Moi, je veux me vanter les victoires que Dieu apporte. Je veux vanter comment il me donne la paix dans une victoire dans un domaine de ma vie. Je veux me rappeler que la victoire est disponible. Je veux arrêter de vivre dans le regret, dans la honte. Je veux vanter Dieu dans ma vie. Puis quand je me plante, je veux revenir à celui qui a payé cher, puis qui a égorgé pour moi, puis qui veut que je revienne à lui, au lieu de me tenir dans les conséquences du péché, dans l'isolement. Dans la honte. Et peut-être que tu es là ce matin, tu es dimanche matin là, tout pimpant, bien habillé, mais dans le fond de ton cœur, tu es isolé. Tu te fais traîner dans la honte cette semaine. Je t'invite à prendre ce symbole dans un esprit de repentance, de reconnaissance et de reprendre la victoire que Dieu te promet en Jésus-Christ. Avec dignité, pas dans l'apitoiement, pas dans la victimisation. Ça va juste continuer à te purger. J'ai invité mon frère à venir nous conduire et j'aimerais juste prendre un instant pour prier avec vous sur ce qu'on vient de partager ensemble, que le Seigneur puisse faire descendre sa parole dans nos cœurs. Oh Seigneur, ta parole est riche. Nous sommes privilégiés de lire quelques milliers d'années plus tard ce récit de nos origines du péché. Et quelle instruction qu'on apprend sur nous, sur la dynamique, mais surtout, Seigneur, sur la grâce. Ce matin, on va être envahi de ta grâce, on va être envahi de reconnaissance, on va être envahi d'émerveillement de comment tu es bon, tu es patient, tu es travaillant pour notre service, nous servir, Seigneur, pour nous produire le salut, nous concocter un plan de sauvetage incroyable qu'aucune personne sur terre aurait pu imaginer soit possible. Et que ça passait par Jésus. Quel privilège, Seigneur! Quel message! Quelle victoire incroyable! Et quel espoir dans nos cœurs! On a des promesses, même après la première chute, tout de suite, il y avait des promesses de grâce et de rédemption, de solution divine. Jamais tu nous as laissés sans plan de sauvetage, Seigneur! Wow! Nous, on n'arrive pas à être des parents comme ça à nos enfants. On manque, on culpabilise, on ne restaure pas bien. On contrôle, Oh Seigneur, on a tellement à apprendre de toi comme Père et Mère en même temps, Père céleste, attentionné. Oh, aide-nous à voir, Seigneur, tes qualités, à être émerveillé, imbibé, submergé de ton amour ce matin, de ta bonté dès les premiers chapitres de la Bible, qui sont envahis de ta bonté, de ta grâce. À chaque chapitre, il y a de la grâce. Aide-nous à le voir plutôt que de voir la crainte, le jugement, les conséquences humaines qui nous envahissent, qui nous débinent, nous découragent et nous éloignent. Oh Seigneur, peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de restauration. Et je te prie pour ce cœur, Seigneur, qui résiste ou qui se garde à traîner à terre, à ramper comme le serpent au lieu de marcher, qui reste assis au lieu de se lever. Seigneur, délivre le cœur qui transporte des mensonges présentement. Que ces mensonges soient confessés dans le nom de Jésus. Que ces mensonges soient abandonnés, que la vérité puisse entrer ce matin. Et qu'on puisse vivre ce que tu veux qu'on vive, c'est une vie en abondance, une vie riche. Parce que tu t'es fait, de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir par le sacrifice de Jésus. Et là, on est des enfants de Dieu, des héritiers du royaume des cieux. C'est incroyable, Seigneur. On restaure nos cœurs, Seigneur. Et je te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.